bonheur assez redoutable. Ouais. Je comprends pourquoi vous êtes si nombreux. Vous êtes venus pour le Robert musicien, pas pour le Robert juriste. Parce que vraiment, venir écouter en ce début d'année un cours de droit, c'est beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Je vais vous faire un cours. En démocratie, après tout, les mérites, on peut commencer une autre liste. Bon, je ne vais pas vous commenter la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'on attend. Donc on est un peu dans le bon breton. Je vous dis tout de suite, moi je suis très confiant, mais la plupart de mes interlocuteurs sont très pessimistes. Voilà. Donc on va voir. Et j'espère que lors d'une prochaine réunion, on pourra constater ce qui se passe. Alors, peut-être, avant d'entrer vraiment dans le détail juridique, il est nécessaire d'avoir un peu un panorama. Moi, ce que je voudrais vous montrer d'abord, c'est l'illégitimité profonde de cette démarche, de la réforme elle-même. En dehors des aspects juridiquement techniques. Pourquoi ? Parce que c'est, cette réforme régionale, c'est vraiment celle dont on n'avait pas besoin par rapport à tous les problèmes que pose le système politique et administratif français. Celui-là n'est certainement pas prioritaire. Quelques rappels quand même. Le problème n'est pas que nous avons 36 000 communes. Le problème, c'est qu'il y en a 31 500 qui ont moins de 2000 habitants. Or, 2000 habitants, c'est le minimum qui est aujourd'hui considéré comme viable pour une collectivité locale. Et beaucoup d'experts considèrent d'ailleurs que le seuil est beaucoup plus haut. 20 000 ont moins de 500 habitants. C'est là qu'il y a le problème, dans le monde communal. À cela se rajoutent 13 000 syndicats, 2150 communautés. Pas parce qu'il y avait trop de communes, on a rajouté encore toutes les autres. L'autre problème, c'est pas tellement c'est l'histoire de millefeuille, c'est l'extraordinaire explosion des dépenses locales. Juste là aussi quelques chiffres, quand même. Entre 1998 et 2011, le nombre de fonctionnaires des collectivités territoriales a augmenté de 50%, passant de un peu moins de 1 300 000 à pratiquement 1 900 000. Il n'y a pas eu proportionnellement une augmentation de quantité de qualité des services publics. Ceci n'est pas dû principalement au transfert de compétences, hein, contrairement à ce que certains élus racontent. Que par exemple, les communautés sont passées de, dans la même période, de 55 000 employés à 191 000, multiplié par presque, sans qu'il y ait eu de réduction du côté des communes. Les dépenses de personnel ont évidemment progressé dans les mêmes proportions, et dans cet ensemble, que représentent les régions? Dans les finances locales, dans leur ensemble, les régions, c'est à peu près 12%. Les communes et les intercommunalités, c'est 56%, et là-dedans, il n'y a pas tous les syndicats, il n'y a pas tous les autres satellites communaux. Et les départements, c'est 32%. Par conséquent, s'il y a un problème de dépenses, d'économie, d'amélioration de l'efficience du système, c'est sûrement pas dans la petite tranche régionale qu'il fallait commencer. Voilà. Ensuite, est-ce que c'était le moment de faire cette réforme-là? Vous savez que le gouvernement a préparé plusieurs lois. Une a été promulguée au mois de janvier dernier, de modernisation de l'administration locale et d'affirmation des métropoles. C'est plutôt une bonne loi parce qu'elle s'attaque à un des grands problèmes de notre société qui est la gestion des grandes aires urbaines, puisque nous sommes une société en forte métropolisation, en forte urbanisation, et que à la fois les problèmes économiques et les problèmes sociaux se trouvent là. Et puis il y a une autre loi qui a été déposée au début d'année, projet de loi qui a été déposé en début d'année, qui s'appelle la loi NOTRe, bien sûr, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui aurait pu être discutée plus rapidement, mais qui n'est seulement discutée que maintenant. Or, cette loi-là, elle traite des compétences des différentes collectivités, ce qui est un grand problème, notamment des compétences des régions. Or, avec Jean-Marie et peut-être d'autres ici, nous allons parfois dans d'autres pays européens, et nous savons que la réflexion sur l'administration locale doit se faire sur trois thèmes, sur trois points d'attrition. Le territoire, les compétences et les ressources. Ressources financières et ressources humaines. Et qu'il est absurde de vouloir donner la priorité à l'un sans regarder quelles sont les conséquences sur les autres. Or, si la priorité aujourd'hui, tout le monde comprend ça, est l'économie, est la modération des dépenses, est la maîtrise des finances publiques, c'est probablement de ce côté-là qu'il fallait regarder et construire le système sur ce enjeu-là. Donc, c'est vraiment pas par ça qu'il fallait commencer. Et qui devait le faire? Qui devait commencer? Vous savez tous que c'est le président de la République qui, pendant un week-end, après quand même quelques petits coups de téléphone et avec quelques conseillers, a tracé la carte et un dernier tête-à-tête avec M. Valls a arrêté la dernière mouture, alors qu'il y avait eu des fuites qui en montraient d'autres, qui prouvent que rien n'était évident, rien n'était vraiment très arrêté. Et sinon, dans une tribune, réformer les territoires pour réformer la France, publié dans les quotidiens régionaux le 3 juin 2014, que cette grande réforme est annoncée. On est à l'époque où il change de gouvernement, 15 jours après, le 18 juin, est déjà déposé le projet de loi qui doit mettre cela en musique. Pas la carte qui a été publiée par la presse, la carte volante, si je puis dire, elle portait le sigle Élysée. Ce sont les services de l'Élysée qui ont fait cette carte. C'est le président, c'est l'Élysée qui a fait cette proposition de réforme. Or, il s'agit d'un projet de loi. La Constitution exige que la modification des limites des collectivités des régions soit assurée par la loi. L'initiative de loi n'appartient pas au président de la République. Cela appartient au gouvernement, cela appartient au Premier ministre. L'initiative de loi appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Mais le Premier ministre, c'est aussi le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Alors, qu'est-ce qui peut légitimer l'intervention du président de la République d'une manière aussi précise, pas pour tracer la guide, pour dire il faudrait faire, etc. Je pense que deux fondements possibles. Là, c'est qu'il y a une pressante demande de la société, une urgence, le gouvernement tarde à agir, et il appartient au président de la République d'intervenir. Mais véritablement pas dans ce cas de figure. D'autant plus qu'au gouvernement, il y avait 4 ou 5 ministres qui avaient dans leur portefeuille, plus ou moins directement, les affaires des collectivités territoriales, sans ajouter que le Premier ministre, venant de sortir du ministère de l'Intérieur, connaissait sans doute aussi un petit peu le sujet. Donc, il n'y a pas de demande pressante. On n'est pas non plus dans le domaine réservé du président, et surtout, il aurait pu être un autre argument, c'est une promesse électorale qui a été validée par les citoyens qui ont élu ce président et donc dit maintenant je mets en œuvre ce que je vous ai promis. Or, ça n'est pas le cas. J'ai connu les programmes, il y a une proposition 54 du candidat qui comportait des formules extrêmement général, du genre, j'engagerai une nouvelle étape de la décentralisation en associant les élus locaux. Voilà. Oui, mais les élus régionaux ne sont pas locaux, ils sont régionaux, donc après tout, il a respecté sa promesse. Voilà, je ferai voter une loi sur le renforcement de la démocratie et des libertés locales. Enfin, bon, j'arrête là. On n'est pas dans ce cas de figure. Donc, le peuple ne réclame rien, il n'y a pas d'exigence de la part des experts, même si quelques-uns avaient envisagé cette idée de grande région. Et pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier d'où viennent les régions. Les régions ont été des réponses, ont été des solutions, avant d'être des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, d'ailleurs, ce ne sont pas des problèmes. Les régions ont été créées à la fin des années 50, 58, 59, puis consolidées en 64, parce qu'on n'a pas fait le regroupement des départements. Il y a toute une série de projets, moi j'en ai vu dans les archives du ministère des Finances, toute une série de projets qui visaient à faire de grands départements dans une France qui était moins rurale, où les communications étaient autres, etc., et de réduire le nombre de départements de l'ordre de la moitié à peu près. Ça n'a pas été fait. Et c'est parce qu'on n'a pas pu faire les grands départements qu'on a posé par-dessus les départements des régions qui, à l'origine, étaient un pur décalque des départements, n'est-ce pas ? Avec les préfets, les différentes directions régionales qui recopiaient les directions départementales et qui avaient simplement des fonctions de coordination. Et puis ces régions se sont progressivement développées dans les services de l'État, puis on a créé l'établissement public régional, la décentralisation, et elles sont devenues des collectivités territoriales. Et là où tout le système politique français tient une grande, grande responsabilité, c'est qu'on n'a jamais joué la carte régionale. Hein, et que notamment, lors des transferts de compétences, ce sont toujours les départements qui ont obtenu les plus gros morceaux, parce que, tout simplement, il y a plus de présidents de conseil général, ils sont pratiquement tous, ils étaient pratiquement tous sénateurs, ils avaient l'oreille du pouvoir, et surtout...